Chapitre 15. Dans lequel se trouva un portrait fidèle de deux personnes distinguées et une description exacte d'un grand déjeuner qui eut lieu dans leur maison et domaine. Le dit déjeuner amène la rencontre d'une vieille connaissance et le commencement d'un autre chapitre. La conscience de M. Pickwick lui reprochait d'avoir un peu négligé ses amis du Paon d'Argent. Et dans la matinée du troisième jour après l'élection, il allait sortir pour les visiter lorsque son fidèle domestique remit entre ses mains une carte de visite sur laquelle était gravée l'inscription suivante en lettres gothiques. « Madame Chasse-Lyon, la caverne, Étainswill. » « La personne attend, » dit Sam. « C'est bien moi qu'elle demande ?» C'est vous particulièrement et sans remplacement, comme dit le secrétaire privé du diable quand il vint emporter le docteur Faust. C'est bien vous qu'il demande. Il ? C'est donc un gentleman ? Si ça n'en est pas un, c'en est une imitation soignée. Mais c'est la carte d'une dame. Je l'ai reçue d'un monsieur malgré ça. Il attend dans le salon et il dit qu'il attendra toute la journée plutôt que de ne pas vous voir. » Ayant appris cette détermination, M. Pickwick descendit au parloir. Un homme grave y était assis. Il se leva promptement en voyant entrer notre philosophe et dit avec un air de profond respect. « Monsieur Pickwick, je présume ?»« Oui, monsieur. »« Permettez-moi, monsieur, d'avoir l'honneur de presser votre main. Permettez-moi de la secouer. » « Avec plaisir, » répondit M. Pickwick. L'étranger secoua la main qui lui était offerte et continua ainsi. « Monsieur, la renommée nous a parlé de vous comme d'un savant antiquaire. Le bruit de vos découvertes a frappé l'oreille de Madame Chasse-Lyon, ma femme, monsieur. Moi, je suis M. Chasse-Lyon. » Ici, l'homme grave s'arrêta, comme s'il avait cru que M. Pickwick devait être étourdi par cette communication. Mais voyant que le philosophe demeurait parfaitement calme, il poursuivit en ces termes. « Ma femme, monsieur, Mistress Chasse-Lyon, est fière de compter parmi ses connaissances tous ceux qui se sont illustrés par leurs ouvrages et par leurs talents. Permettez-moi, monsieur, de placer dans cette liste le nom de M. Pickwick et celui de ses confrères du club qu'il a fondé. Je serai très heureux, monsieur, de faire la connaissance d'une dame aussi distinguée. Vous la ferez, monsieur. Demain matin, nous donnons un grand déjeuner, une fête champêtre, à un nombre considérable de ceux qui se sont rendus célèbres par leurs ouvrages et par leurs talents. Accordez à Madame Chasse-Lyon la satisfaction de vous voir à la caverne. Avec grand plaisir. Madame Chasse-Lyon donne beaucoup de ses déjeuners, monsieur. Gala de la raison et fluve de l'âme, comme l'observe avec un sentiment plein d'originalité quelqu'un qui a adressé un sonnet à Madame Chasse-Lyon sur ses déjeuners. Était-il célèbre par ses ouvrages et par ses talents ? Demanda M. Pickwick. Certainement, monsieur. Toutes les connaissances de Madame Chasse-Lyon sont célèbres. C'est son ambition, monsieur, de n'avoir pas d'autres connaissances. C'est une très noble ambition. Quand j'informerai Madame Chasse-Lyon que cette remarque est tombée de vos lèvres, monsieur, elle en sera fière en vérité. Vous avez avec vous, monsieur, un gentleman qui, je crois, a produit quelques petits poèmes d'une grande beauté. Mon ami, M. Snodgrass, a beaucoup de goût pour la poésie. C'est comme Madame Chasse-Lyon, monsieur. Elle adore la poésie, monsieur. Elle en est folle. Je puis dire que toute son âme et tout son esprit sont pétris de poésie. Elle-même a produit quelques pièces délicieuses, monsieur. Vous pouvez avoir rencontré son ode à une grenouille expirante. Je ne le crois pas. Vous m'étonnez. Elle a fait une immense sensation. Elle a paru originairement dans le magasin des dames et était signée d'un C et de 9 étoiles. Elle commençait ainsi. Puis-je te voir, sanglante et pantelante, sur ton ventre sans soupirer. Puis-je sans pleurs te contempler mourante sur un rocher, grenouille expirante ?»
Charmant ! S'écria M. Pickwick.
Beau ! Dit l'homme grave. Si simple !
Sublime !
La strophe suivante est plus touchante encore. Voulez-vous que je la répète ?
S'il vous plaît.
La voici, continua l'homme grave, d'un ton encore plus grave. Dis-moi si des démons, avec leurs voix hurlantes, sous la figure de gamins, loin des marais, t'auraient chassé, errante, avec des chiens, grenouille expirante.
Joliment exprimé, dit M. Pickwick.
C'est un diamant, monsieur. Mais vous entendrez Madame Chasse-Lion vous réciter cette ode. Elle seule peut la faire valoir. Demain matin, monsieur, elle la récitera en costume.
En costume ?
Sous la figure de Minerve. Mais j'oubliais, c'est un déjeuner costumé.
Eh mais ! S'écria M. Pickwick en jetant un coup d'œil sur sa personne.
Je ne puis vraiment pas me travestir.
Pourquoi pas, monsieur, pourquoi pas ? Salomon Lucas, le juif, dans la grande rue, a mis l'habillement de fantaisie. Voyez, monsieur, combien de caractères convenables vous pouvez choisir. Platon, Zénon, Épicure, Pythagore, tous fondateurs de clubs.
Je le sais bien, mais comme je ne puis me comparer à ces grands hommes, je ne saurais me permettre de porter leur habit.
L'homme grave médita profondément pendant quelques minutes et dit ensuite.
En y réfléchissant, monsieur, je ne sais pas si Madame Chasse-Lion ne sera pas charmée de faire voir à ses hôtes une personne de votre célébrité dans le costume qui lui est habituel, plutôt que sous une enveloppe étrangère. Je crois pouvoir prendre sur moi de vous promettre, au nom de Mistress Chasse-Lion, qu'elle fera une exception en votre faveur. Oui, monsieur, je suis tout à fait certain que je puis me le permettre.
En ce cas, répondit M. Pickwick, j'aurai grand plaisir à me rendre à votre invitation.
Mais je vous fais perdre votre temps, monsieur, dit soudainement l'homme grave d'un ton pénétré. J'en connais la valeur, monsieur, et je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je dirai donc à Madame Chasse-Lion qu'elle peut vous attendre avec confiance, ainsi que vos illustres amis. Adieu, monsieur. Je suis fier d'avoir vu un personnage aussi éminent. Pas un pas, monsieur, pas une parole.
Et sans donner à M. Pickwick le temps de lui répondre, M. Chasse-Lion s'éloigna gravement. Le philosophe prit son chapeau et se rendit au Pan d'Argent. M. Winkle y avait déjà parlé du bal déguisé.
« Madame Pott y va !» furent les premières paroles dont il salua son mentor.
« Ah ah ! » fit M. Pickwick.
« Sous la figure d'Apollon. Seulement, Pott s'oppose à la tunique.
« Il a raison, il a parfaitement raison !» dit le savant homme avec emphase.
« Oui, aussi elle portera une robe de satin blanc avec des paillettes d'or.
N'aura-t-on pas de la peine à reconnaître son personnage ? Demanda M. Snodgrass.
Par exemple, riposta M. Winkle avec indignation, est-ce qu'on ne verra pas sa lyre ?
C'est vrai, je n'avais pas pensé à la lyre.
Et moi, dit alors M. Tubman, j'irai en bandit.
Quoi ? S'écria M. Pickwick en faisant un soubresaut.
En bandit, répéta M. Tubman avec douceur.
Vous ne prétendez pas, répliqua M. Pickwick en examinant son ami avec une sévérité solennelle.
Vous ne prétendez pas, M. Tubman, que c'est votre intention de porter une veste de velours vert avec des pans longs de 2 doigts ?
C'est pourtant mon intention, monsieur, répondit avec chaleur M. Tubman.
Et pourquoi pas, s'il vous plaît ?
« Parce que, dit M. Pickwick, considérablement excité, parce que vous êtes trop vieux, monsieur. » Trop vieux ? S'écria M. Tubman. Et s'il est besoin d'une autre raison, parce que vous êtes trop gras, monsieur.
La figure de M. Tubman devint pourpre.
Monsieur, cria-t-il, ceci est une insulte.
Monsieur, répliqua M. Pickwick sur le même ton, si vous paraissiez devant moi avec une veste de velours vert et des pans longs de deux doigts, ce serait pour moi une insulte beaucoup plus grave.
Monsieur, vous êtes un impertinent.
Monsieur, vous en êtes un autre. M. Tubman s'avança d'un pas ou deux et jeta à M. Pickwick un regard de défi. M. Pickwick lui renvoya un regard semblable, concentré en un foyer dévorant par le moyen de ses lunettes. M. Snodgrass et M. Winkle demeuraient immobiles, pétrifiés de voir une telle scène entre de tels hommes. Après une courte pause, M. Tubman reprit sur un ton plus bas, mais profondément accentué.
« Vous m'avez appelé vieux monsieur. »«
Oui. »«
Et gras. »« Je le répète. »« Et impertinent. »«
C'est vrai. » Il y eut un instant de silence épouvantable.
« Mon attachement à votre personne, monsieur, » reprit M. Tubman en parlant d'une voix tremblante d'émotion et en relevant en même temps ses manchettes. « Mon attachement à votre personne est grand, très grand. Mais il faut que je prenne sur cette même personne une vengeance sommaire. »«
Avancez, monsieur, » répliqua M. Pickwick. Stimulé par la nature excitante de ce dialogue, l'homme immortel prit immédiatement une attitude de paralytique, persuadé sans aucun doute, comme le supposèrent les deux témoins de cette scène, que c'était une posture défensive. Heureusement que M. Snodgrass se précipita entre les deux combattants, au hasard imminent de recevoir sur les tempes un coup de poing de chacun d'eux. « Quoi ? » s'écria-t-il, recouvrant tout à coup le don de la parole que l'excès de son étonnement lui avait ravi jusqu'alors. « Quoi ? M. Pickwick ? Vous ? Vous ? Sur qui les yeux de l'univers sont attachés ?» Monsieur Tubman, vous qui êtes illuminé comme nous tous par l'éclat divin de son nom, quelle honte, messieurs, quelle honte!
De même que les traces de la mine de plomb cèdent à la douce influence de la gomme élastique, de même les sillons inaccoutumés imprimés par une colère passagère sur le front lisse et ouvert de Monsieur Pickwick s'effacèrent graduellement pendant le discours de son jeune ami. Celui-ci parlait encore, et déjà la physionomie du philosophe avait repris son expression habituelle de bénignité.
« J'ai été trop vif, » dit M. Pickwick, « beaucoup trop vif. Tubman, votre main. » Un nuage sombre qui couvrait la figure de M. Tubman se dissipa à ces mots, et il pressa chaleureusement la main de son ami en répondant « J'ai été trop vif aussi. »
« Non, non, » reprit précipitamment M. Pickwick, « c'est moi qui ai tort. Vous mettrez la veste de velours vert. »«
Pas du tout, pas du tout.
Pour m'obliger, vous la mettrez. »«
Eh bien, je la mettrai donc. »
Il fut en conséquence décidé que M. Tubman, M. Winkle et M. Snodgrass porteraient des costumes de fantaisie, et c'est ainsi que M. Pickwick fut entraîné, par la chaleur de ses sentiments, à approuver une conduite dont son excellent jugement l'eût détourné. On ne pourrait trouver une preuve plus frappante de son aimable caractère quand même les événements racontés dans ce volume seraient entièrement le produit de l'imagination. M. Chasselion n'avait pas exagéré les ressources de M. Salomon Lucas. Ses costumes étaient nombreux, innombrables. Non pas strictement classiques, peut-être, pas entièrement neufs et ne représentant précisément les modes d'aucun âge ni d'aucun pays. Mais ils étaient tous plus ou moins pailletés. Et qu'y a-t-il de plus joli que des paillettes ? On peut objecter qu'elles ne font point d'effet à la clarté du soleil. Mais tout le monde sait qu'elles étincelleraient s'il y avait des bougies. Or, quand on veut donner des bals déguisés pendant le jour, si les costumes ne brillent pas comme ils auraient brillé à la lumière, la faute n'en est nullement aux paillettes. Elle est entièrement aux gens qui donnent des bals dans la matinée. » Tels furent les raisonnements convaincants de M. Salomon Lucas, et sous leur influence, messieurs Tubman, Winkle et Snodgrass s'engagèrent à porter les déguisements que son goût et son expérience lui firent recommander comme admirablement appropriés à l'occasion. Une calèche fut louée par les Pickwickiens dans leur hôtel. Un coupé, tiré du même endroit, devait transporter M. et Mme Pott sur le domaine de Mme Chasselion. Comme un remerciement délicat de l'invitation qu'il avait reçue, M. Pott avait déjà prédit avec confiance dans la Gazette d'Etansville que la caverne offrirait une scène d'enchantement aussi variée que délicieuse, un éblouissant foyer de beautés et de talents, un spectacle touchant d'hospitalité abondante et prodigue, et surtout un degré de splendeur adouci par le goût le plus délicieux, un luxe embelli par une parfaite harmonie et par le plus exquis bon ton, et auprès duquel les merveilles fabuleuses des mille et une nuits paraîtraient revêtues de couleurs aussi lugubres et aussi sombres que doit l'être l'esprit de l'être atrabilaire et grossier qui oserait souiller du venin de l'envie les préparatifs faits par l'illustre et vertueuse dame à l'hôtel de laquelle est offert cet humble tribut d'admiration. Cette dernière phrase était un mordant sarcasme dirigé contre l'indépendant qui, n'ayant pas été invité à la fête, avait affecté dans ses quatre derniers numéros de la tourner en ridicule et qui avait imprimé ses plaisanteries à ce sujet avec ses plus gros caractères en écrivant « qui pisait » tous les adjectifs en lettres majuscules. Le matin arriva. C'était un séduisant spectacle de voir M. Tubman en costume complet de brigand, avec une veste tellement serrée qu'elle en était plissée sur son dos et sur ses épaules. La portion supérieure de ses jambes se trouvait comprimée dans une culotte de velours, et la partie inférieure était enlacée dans des bandages compliqués pour lesquels tous les brigands ont un attachement si inconcevable. C'était plaisir de voir ses moustaches retroussées et son col de chemise ouvert, d'où sortait un visage plus ouvert encore. C'était plaisir de contempler son chapeau en pain de sucre décoré de rubans de toutes les couleurs et que le brigand était obligé de porter sur ses genoux, car nul mortel ne saurait mettre un semblable chapeau sur sa tête dans une voiture fermée. L'apparence de M. Snodgrass était également agréable et réjouissante. Il avait des chausses de satin bleu, des souliers de satin et de soie. Sa tête était ombragée d'un casque grec. Et, comme tout le monde le sait, comme l'affirmait M. Salomon Lucas, il possédait ainsi le costume journalier authentique des troubadours depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque où ils disparurent finalement de la surface de la terre. La calèche qui transportait le brigand et le troubadour s'arrêta derrière le coupé de M. Pott, lequel coupé lui-même s'était arrêté à la porte de M. Pott, laquelle porte s'ouvrit et parmi les cris de la populace laissa voir le grand journaliste, accoutré comme un officier de justice russe et tenant dans sa main un terrible knout, symbole élégant du redoutable pouvoir que possédait la galette d'Etansville et des flagellations effrayantes qu'elle infligeait aux coupables politiques. « Bravo !» s'écrièrent M. Tubman et M. Snodgrass en voyant cette allégorie marchande. « Bravo !» répéta la voix de M. Pickwick du fond du couloir. « Ouh, ouh, Pott ! Ohé, Pott !» beugla la populace. Pendant ces salutations, l'éditeur montait dans le coupé, tout en souriant avec une sorte de dignité gracieuse qui témoignait suffisamment qu'il sentait son pouvoir et savait comment l'exercer. Après lui, on vit sortir de la maison Mme Pott, qui aurait parfaitement ressemblé à Apollon si elle n'avait pas eu de robe. Elle était conduite par M. Winkle, et celui-ci, avec son petit habit rouge, se serait fait nécessairement reconnaître pour un chasseur s'il n'avait point également ressemblé à un facteur de Londres. Enfin parut M. Pickwick, et il fut applaudi par les gamins aussi bruyamment que les autres, probablement parce que sa culotte et ses guêtres paraissaient à leurs yeux pour quelques restes de l'Antiquité. Les deux voitures se dirigèrent ensemble vers la demeure de Mme Chasselion. Celle qui contenait M. Pickwick portait aussi sur le siège Sam Weller, qui devait aider au service. Tous les individus, hommes et femmes, garçons et filles, bambins et vieillards, qui étaient assemblés pour voir les visiteurs dans leurs costumes, se pâmèrent de délices quand ils aperçurent M. Pickwick donnant le bras d'un côté au brigand et de l'autre au troubadour. Mais lorsque M. Tupman, pour faire son entrée dans le bon style, s'efforça de fixer sur sa tête son chapeau pointu, des cris tumultueux s'élevèrent, tels qu'on n'en avait jamais entendu auparavant. Les immenses et somptueux préparatifs de la fête réalisaient complètement les prophétiques louanges de Pott sur les merveilles fabuleuses des mille et une nuits, et contredisait du même coup les insinuations perfides du venimeux indépendant. Le jardin, qui avait plus d'une acre d'étendue, était rempli de monde. Jamais on n'avait vu un tel foyer de beauté, d'élégance et de littérature. La jeune lady, qui faisait la poésie dans la Gazette d'Etonswill, s'était revêtue, ou plutôt dévêtue, d'un costume d'odalisque. Elle s'appuyait sur le bras du jeune gentleman qui faisait la critique et qui portait fort convenablement un uniforme de feld-maréchal moins les bottes. Il y avait une armée de génies de la même force, et toute personne raisonnable aurait regardé comme un honneur suffisant de se rencontrer là avec eux. Mais il y avait mieux encore. Il y avait une demi-douzaine de lions de Londres, des auteurs réels qui avaient écrit des livres tout entiers et qui les avaient fait imprimer. On pouvait les voir marchant comme des hommes ordinaires, souriant, parlant, oui, et disant même pas mal de sottises, sans doute dans l'intention bénigne de se rendre intelligibles aux gens vulgaires qui les entouraient. Il y avait en outre une bande de musiciens en chapeaux de carton doré, quatre chanteurs soi-disant italiens dans leur costume national, et une douzaine de domestiques de louage, aussi dans leur costume national, costume fort malpropre par parenthèse. Enfin, et par-dessus tout, il y avait Madame Chasselion en Minerve, recevant la compagnie et laissant déborder l'orgueil et le plaisir qu'elle éprouvait à voir rassemblés autour d'elle tant d'individus distingués. « Monsieur Pickwick, madame, dit un domestique. » Et cet illustre personnage s'approcha de la divinité présidente, ayant ses deux bras passés dans ceux des brigands et du troubadour, et tenant son chapeau à la main. « Quoi ? Où ?» s'écria Madame Chasselion en tressaillant avec un ravissement immense. « Ici, madame, dit Monsieur Pickwick d'une voix douce. « Est-il possible que j'aie réellement la satisfaction de voir M. Pickwick lui-même ?»« En personne, madame, répliqua le philosophe en saluant très bas. « Permettez-moi de présenter mes amis, M. Tupman, M. Winkle, M. Snodgrass, à l'auteur de la grenouille expirante. » Peu de personnes, à moins de l'avoir essayé, savent combien il est difficile de saluer avec d'étroites culottes de velours vert, une veste serrée et un chapeau en pain de sucre, ou bien avec un justaucorps de satin bleu et des bas de soie, ou bien avec des jarretières et des bottes à la russe. Surtout quand toutes ces choses n'ont point été faites pour celui qui les porte et ont été fixées sur lui sans la plus légère attention aux dimensions respectives de l'habillement et de l'habillé. Jamais on ne vit de contorsions semblables à celles que faisait M. Tupman pour paraître à son aise et gracieux. Jamais on ne vit de postures aussi ingénieuses que celles de ses compagnons de déguisement.
« Monsieur Pickwick, dit Madame Chasselion, il faut que vous me promettiez de rester auprès de moi durant toute la journée. Il y a ici des centaines de personnes que je dois absolument vous présenter. »
« Vous êtes bien bonne, madame, » répondit M. Pickwick.
« En premier lieu, voici mes fillettes. Je les avais presque oubliés. Dit Minerve, en montrant d'un air négligent deux demoiselles parfaitement développées, qui pouvaient avoir de 20 à 22 ans, et qui portaient l'une et l'autre des costumes enfantins. Était-ce pour les faire paraître plus modestes ou pour faire paraître leur maman plus jeune? Monsieur Pickwick ne nous en informe pas clairement.
Elles sont charmantes, dit Monsieur Pickwick lorsque ses aimables enfants se retirèrent après lui avoir été présentés.
Monsieur, répliqua Monsieur Pott avec un air de majesté, c'est qu'elles ressemblent comme deux gouttes d'eau à leur maman.
Taisez-vous, méchant homme!
S'écria gaiement Madame Chasselion en frappant de l'éventail le bras de l'éditeur. Minerve avec un éventail.
Certainement, ma chère Madame Chasselion, reprit Monsieur Pott, qui était le trompette attitré de la caverne. Vous savez bien que l'année dernière, quand votre portrait était à l'exposition, tout le monde demandait si c'était le vôtre ou celui de votre plus jeune fille, car vous vous ressembliez tant qu'il n'y avait pas moyen de faire la différence.
Eh bien, quand cela serait? Qu'est-ce que vous avez besoin de le répéter devant des étrangers?
Répliqua Minerve en accordant un autre coup d'éventail au lion endormi de la Gazette d'Etansuil.
Comte! Comte!
Cria tout à coup Madame Chasselion à un individu qui passait à portée de sa voix et qui avait un uniforme étranger surmonté d'énormes moustaches.
« Ah ! Faut fouloir-te moi ! » dit le comte en se retournant.
« Je veux présenter l'un à l'autre deux hommes fort spirituels. Monsieur Pickwick, je suis heureuse de vous présenter le comte Smorltork. »
Madame Chasselion ajouta à l'oreille du philosophe.
« Le fameux étranger qui rassemble des matériaux pour son ouvrage sur l'Angleterre, vous savez ?»«
Le comte Smorltork, Monsieur Pickwick. »
Monsieur Pickwick salua le comte avec toute la révérence due à un si grand homme, et le comte tira ses tablettes.
« Comment faut-il, Madame Chasselon ?»
demanda le comte en souriant gracieusement à la dame enchantée.
« Monsieur Pickwick est, ou Bigwig, un avocat, n'est-ce pas? Je vois, c'est ça. J'inscris Monsieur Bigwig. »
Le comte allait enregistrer Monsieur Pickwick sur ses tablettes comme un gentleman qui se chargeait de faire les affaires des autres et dont le nom était dérivé de sa profession, lorsque Madame Chasselion l'arrêta en disant
« Non, non, comte, Pickwick.
Ha ha, je vois. Pick, nom de baptême. Fig, nom de famille. Très fort bien, très fort bien. Comment portez-vous, Fig ?»«
Très bien, je vous remercie, » répondit Monsieur Pickwick avec son affabilité accoutumée. « Y a-t-il longtemps que vous êtes en Angleterre ?»«
Long, très fort longtemps. Quinzaine plus. »
Resterez-vous encore longtemps?
À une semaine.
Vous avez beaucoup à faire, poursuivit Monsieur Pickwick en souriant, pour assembler en aussi peu de temps tous les matériaux dont vous avez besoin.
Hé, hey, elles sont rassemblées, dit le comte.
En vérité? S'écria Monsieur Pickwick.
Elles sont là,
ajouta le comte en se frappant le front d'un air significatif.
« Dans mon patrie, fort livre, comblé de notes, musique, science, poésie, poétique, tout. »
« Le mot politique, monsieur, comprend en soi-même une étude difficile et d'une immense étendue. »«
Ah ! » s'écria le comte en tirant ses tablettes. « Très fort bon, beau parole pour commencer un capitole. Capitole 7. » Et 40. Le mot politique surprend en soi-même. »
Et la remarque de Monsieur Pickwick fut notée dans les tablettes du comte Smorltork, avec des additions et variantes occasionnées par son imagination ardente et sa connaissance imparfaite de la langue.
« Comte, dit Madame Chasselion.
Madame Chasse, répondit le comte. Voici Monsieur Snodgrass, un ami de Monsieur Pickwick et un poète.
Attendez, s'écria le comte en tirant ses tablettes sur nouveau frais.
Livre, voici, capitale, ami littéraire. Nom, l'homme grâce. Très fort bien. Présenté à l'homme grâce, ami de Piquefigue, par Madame Chasse, qui d'autres délicats poèmes a produit. Comment s'appelle? Grenouille. Grenouille soupirante. Très fort bien.
Et le comte referma ses tablettes, fit mille révérences, mille remerciements, et s'éloigna, persuadé qu'il venait d'ajouter à ses connaissances sur l'Angleterre les plus importantes et les plus utiles observations.
« C'est un homme bien étonnant !» s'écria Minerve.
« Un philosophe profond !» ajouta Pott.
« Un esprit fort et pénétrant !» continua M. Snodgrass.
Un chœur d'invités relevèrent les louanges du comte Smorltork en secouant gravement leur tête et en disant d'une voix unanime
« Étonnant !»
Comme l'enthousiasme en faveur du comte Smorltork s'allumait de plus en plus, ses louanges auraient pu être célébrées jusqu'à la fin de la fête si les quatre soi-disant chanteurs italiens, rangés autour d'un petit pommier pour produire un effet pittoresque, ne s'étaient pas mis à dérouler leur chanson nationale. Il faut avouer qu'elle ne paraissait point d'une exécution bien difficile, et tout le secret semblait consister à ce que trois des soi-disant chanteurs italiens grognaient, tandis que le quatrième miaulait. Cet intéressant morceau étant terminé, aux applaudissements de toute la compagnie, un jeune garçon commença à se faufiler entre les bâtons d'une chaise, et à sauter par-dessus, et à ramper par-dessous, et à se culbuter avec, et à en faire toutes les choses imaginables, excepté de s'asseoir dessus. Ensuite, il se fit une cravate de ses jambes et les attacha autour de son cou. Puis il fit voir avec quelle facilité une créature humaine peut prendre l'apparence d'un crapaud. Les nombreux spectateurs étaient transportés de jouissance et d'admiration. Bientôt après, on entendit gazouiller faiblement. C'était la voix de Madame Pott, et ses auditeurs pleins de courtoisie s'imaginèrent entendre une chanson parfaitement classique, une vraie chanson de caractère, car Apollon était un compositeur, et les compositeurs chantent très rarement leurs propres œuvres, et pas davantage celles d'autrui. Enfin, Madame Chasselion s'avança et récita son ode immortel à une grenouille expirante.
« Des bravos ! Des bravas ! Des bravis ! Des encore !»
se firent entendre. Et elle la récita une seconde fois. Elle allait la réciter une troisième, mais la majorité de ses hôtes, pensant qu'il était bien temps de manger quelque chose, s'écrièrent que c'était une honte d'abuser de la complaisance de Madame Chasselion. Vainement, Madame Chasselion protesta qu'elle était tout à fait disposée à réciter son ode sur nouveau frais. Ses amis étaient trop polis, trop discrets, trop soigneux de sa santé, pour consentir à l'entendre encore sous aucun prétexte. La salle des rafraîchissements fut donc ouverte, et tous ceux qui étaient déjà venus chez Madame Chasselion se précipitèrent en tumulte pour y arriver les premiers. Ils savaient en effet que l'habitude de cette illustre dame était de faire un déjeuner pour 50 et des invitations pour 300, ou, en d'autres termes, de nourrir les lions les plus remarquables et de laisser les petits animaux se tirer d'affaire comme ils pouvaient.
« Où donc est Monsieur Pott ?»
demanda Madame Chasselion en s'occupant de placer les sudis lions autour d'elle.
« Me voici !» s'écria l'éditeur du bout le plus reculé de la chambre, hors de toute espérance de nourriture, à moins que son hôtesse ne fît quelque chose d'extraordinaire pour lui. « Voulez-vous venir par ici ?» lui cria-t-elle.
« Oh, je vous en prie, ne vous tourmentez pas pour lui !» interrompit Madame Pott de sa voix la plus obligeante. Vous vous donnez beaucoup trop de peine, Madame Chasselion. Il est très bien là-bas. N'est-ce pas, mon cher, que vous êtes très bien là-bas ?
Certainement, mon amour, répliqua l'infortuné pote avec un triste sourire.
Hélas, à quoi lui servait son knout ? Le bras nerveux qui le faisait tomber sur les hommes publics avec une vigueur gigantesque était paralysé par un coup d'œil de l'impérieuse Madame Pote.
Madame Chasselion regarda autour d'elle avec triomphe. Le comte Smorltork était activement occupé à prendre note de ce que contenaient les plats.
Monsieur Tupman, avec plus de grâce que n'en avait jamais déployé tous les brigands de l'Italie, faisait à diverses lionnes les honneurs d'une salade de homard.
Monsieur Snodgrass avait supplanté le jeune gentleman chargé des éreintements dans la Gazette d'Etanswill, était enfoncé dans une dissertation passionnée avec la jeune lady qui faisait la poésie. Et monsieur Pickwick, enfin, se rendait universellement agréable. Rien ne semblait manquer à ce cercle choisi lorsque monsieur Chasselion, dont le département, dans ces occasions, était de se tenir debout près de la porte et de parler aux gens les moins importants, cria de toutes ses forces à Minerve.
« Ma chère, voici monsieur Charles Fitzmarshall. »
« Enfin !» s'écria madame Chasselion. « Avec quelle anxiété je l'ai attendu ! Messieurs, je vous prie, laissez passer monsieur Fitzmarshall. » « Mon cher, dites à monsieur Fitzmarshall de venir me trouver sur le champ pour que je le gronde d'être arrivé si tard. »«
Voilà, ma chère dame, dit une voix claire, aussi vite que possible. Foule étonnante, chambre comble, fort difficile d'approcher, très difficile. »
Le couteau et la fourchette de monsieur Pickwick lui tombèrent des mains. Il regarda monsieur Tubman, qui avait aussi laissé tomber sa fourchette et son couteau, et qui paraissait prêt à s'abîmer sous terre.
« Ah ! » s'écria la voix, tandis que son possesseur s'ouvrait un passage à travers une vingtaine de Turcs, d'officiers, de cavaliers et de Charles II, qui formaient une dernière barricade entre lui et la table.
« Voilà mes vêtements tout cylindrés, brevet d'invention, pas un pli dans mon habit, joliment pressé, pas besoin de faire repasser mon linge, ah ah, la bonne idée !» Drôle de chose, malgré ça, de faire cylindrer son linge sur soi. Opération fatigante, très fatigante.
En prononçant ces phrases brisées, un jeune homme, vêtu en officier de marine, parvint à s'approcher de la table et présenta aux regards étonnés des Pickwickiens la tournure et les traits identiques de M. Alfred Jingle. Il avait à peine eu le temps de prendre la main que lui tendait Mme Chasselion, lorsque ses yeux rencontrèrent les orbes indignés de M. Pickwick.
« Tiens, tiens !» s'écria le coupable. « Oublié ! Pas d'ordre postillon ! J'y vais moi-même, revenu dans un instant. »«
Le domestique ! Ou bien M. Chasselion donnera vos ordres, M. Fitzmarshall ! »
dit la maîtresse de maison.
« Non, non, moi-même ne serai pas long, revenu dans un clin d'œil !» répliqua Jingle, et il disparut dans la foule.
M. Pickwick se leva, plein d'indignation.
« Madame, dit-il, permettez-moi de vous demander qui est ce jeune homme et où il réside. »«
C'est un gentleman d'une grande fortune, M. Pickwick, à qui je meurs d'envie de vous présenter. Le comte aussi sera enchanté de le connaître. »
« Oui, oui, comptez là-dessus, » dit M. Pickwick avec vivacité. « Il demeure ?»«
À Bury, hôtel de l'Ange. »«
À Bury ?»«
À Bury, Saint-Edmunds, à quelques miles d'ici. »«
Mais mon Dieu, M. Pickwick, vous n'allez pas nous quitter. Vous ne pouvez pas, M. Pickwick, songer à vous en aller si tôt. »
Longtemps avant que Mme Chasselion eût prononcé ces paroles, M. Pickwick s'était plongé dans la foule et avait atteint le jardin. Il y fut bientôt rejoint par M. Tupman, qui l'avait suivi de près et qui lui dit
« Cela est inutile, il est parti. »«
Je le sais, » répondit M. Pickwick avec chaleur, « et je le suivrai. »«
Vous le suivrez, où donc ?»«
À Bury, hôtel de l'Ange. » Comment savons-nous s'il n'abuse point quelqu'un dans cet endroit ? Il a trompé une fois un digne homme et nous en étions la cause innocente. Cela n'arrivera plus si je puis l'empêcher. Je veux le démasquer. Sam, où est mon domestique ?
Voilà, ici, monsieur, dit Sam en sortant d'un endroit écarté où il était occupé à examiner une bouteille de vin de madère qu'il avait enlevée sur la table une heure ou deux auparavant.
Voilà votre serviteur, monsieur, et fier du titre encore. Comme disait au public les squelettes vivants qu'on faisait voir pour 3 pence.
Suivez-moi sur le champ, reprit monsieur Pickwick.
Tupman, si je reste à Bury, vous pourrez m'y rejoindre quand je vous écrirai. Jusque-là, adieu.
Les remontrances devenaient inutiles. Monsieur Pickwick était animé et sa résolution était prise. Monsieur Tupman retourna vers ses compagnons et, une heure après, il avait noyé tout souvenir de monsieur Alfred Jingle ou de monsieur Charles Fitzmarshall au moyen d'une bouteille de vin de champagne et d'une contredanse également pétillante. Pendant ce temps, monsieur Pickwick et Sam Weller, perchés à l'extérieur d'une voiture publique, voyaient de minute en minute diminuer la distance qui les séparait de la bonne ville de Bury St. Edmunds.